bonheur tranquille. Petite vie pas si facile, petite vie facile, bonheur pas si tranquille. La bagnole, le fric, la machine à laver, à la fin de la journée, ton amour est bien lessivé. A-t-on regarder le monde du haut de ses talons, on finit par se retrouver tout seul dans le salon. On a beau se faire croire, se raconter des histoires, il faudra bien un jour se regarder dans le miroir. La bagnole, le fric, la machine à laver, à la fin de la journée, ton amour est bien lessivé. Tu auras beau faire, tu auras beau croire, il y a tout qui s'éteint lorsqu'arrive le soir. Tu auras beau faire, tu auras beau dire, un jour ou l'autre, il te faudra partir. La bagnole, le fric, la machine à laver, à la fin de la journée, ton amour est bien lessivé. Déclarer la guerre, elle tournera la terre. Alors vraiment à quoi ça sert? Arrivera le jour où tout disparaîtra, tout ce que tu possèdes, alors ne comptera pas. La bagnole, le fric, la machine à laver, à la fin de la journée, ton amour est bien lessivé. Tu peux tout ranger dans tes petits tiroirs, mais le temps qui passe constitue la mémoire. Chaque moment qui passe, c'est la vie à rebours, et le temps maudit là-haut qui fait le sourd. La bagnole, le fric, la machine à laver, à la fin de sa vie, ton amour est bien desséché. La bagnole, le fric, la machine à laver, à la fin de sa vie, ton amour est bien desséché.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonsoir, vous êtes dans l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire 89.4. Et vous êtes les bienvenus. On a eu un petit souci technique, c'est pour ça qu'on est légèrement bousculé, mais ça fait du bien quelquefois d'être bousculé, parce que la routine, il paraît, j'ai lu ça tout récemment, la routine ralentit les neurones et même elle peut les tuer. Donc gare à trop de routine. Elle nous facilite la vie au quotidien, l'intendance, mais pour avancer dans l'humanisation de l'humanité, il faut être créatif, inventif, plus que jamais, vu l'état de désordre monumental dans lequel s'est engagé, embarqué notre planète. Il ne s'agit plus que de France, bien que cette émission soit dédiée à l'Union pacifiste de France. Nous sommes depuis fort longtemps, depuis 1921, organisés à l'international. Mais maintenant, la guerre et les profiteurs de guerre surtout, ils sont mieux que jamais organisés à l'international. Donc, bienvenue à vous si vous nous écoutez. Et je vous annonce, si tout va bien, nous aurons un invité par téléphone qui est une personnalité universitaire dans la recherche qui s'est dédiée depuis longtemps aux relations entre les nuisances de toutes sortes et aujourd'hui les nuisances des armées et les retombées, les impacts sur la nature. Il vient de publier en 2022 un livre qui s'appelle « La nature que nous nous approprions ». En fait, le titre exact, c'est « La possession de la nature ». J'ai même pas eu le temps de sortir mes affaires pour vous parler. Donc, on va vous faire passer une première chanson dont Pedro a la playlist. Et pensez que la possession de la nature a un rapport avec Dostoïevski, qui avait écrit il y a plus de 100 ans « Les possédés ».
Je ne sais pas si Dieu existe. Les uns disent oui, les autres non. Mais aujourd'hui, je le vois triste de nous voir nous battre en son nom. Assis dans son éternité, moi je vois un Dieu bienveillant, toujours enclin à pardonner toutes nos chamailles d'enfants. Je ne le vois pas ordonner à de prétendus lieutenants de s'en aller assassiner Charlie, Bruxelles, Nice, Bataclan et ses chrétiens persécutés, alors qu'ils suivaient son chemin, des petites filles enlevées pour satisfaire de bas instincts. Non, je ne le vois pas créer Ève inférieure à Adam. Lui, il voulait les voir s'aimer, donner la vie tout simplement. Je ne sais pas si Dieu existe. Les uns disent oui, les autres non. Mais aujourd'hui, je le vois triste de nous voir nous battre en son nom. Pourquoi obliger ton voisin à partager tes convictions, qui t'a donné le droit divin de m'imposer tes opinions? Si j'ai raison, toi tu as tort, mais si j'ai tort, tu as raison. Est-il bien de notre ressort de décider ce qui est bon? Moïse, Mahomet ou Jésus étaient de bonne volonté, mais comme ils doivent être déçus de voir leurs propos déformés. Est-ce la poule qui a fait l'œuf? Est-ce l'œuf qui la poule a fait? C'est un mystère toujours neuf. S'il existe, Dieu seul le sait. Nous, nous dansons dans nos cavernes au rythme dit des préconçus. Et c'est l'orgueil qui nous entraîne. La vraie lumière est au-dessus. Nous parlons d'une même voix, d'amour, de paix, de tolérance. Mais hélas, au nom de la foi, que de colère, que de souffrance. Liberté, liberté chérie, que de crimes commis en ton nom. Nous voulons tous le paradis, mais c'est l'enfer que nous créons. Mais c'est l'enfer que nous créons.
Merci Michel Barbier pour cette très belle chanson qui est hélas toujours d'actualité. Nous avons besoin d'une nouvelle logique de paix. La paix des armes, la paix des cimetières, la paix des armes nucléaires. Mais ça n'a aucun sens. Ça creuse notre anéantissement. Il faut désarmer les armées et libérer les neurones. Les neurones qui sont paralysés, conditionnés, martyrisés par les médias qui sont au service des armées et des profiteurs de guerre. Les armées elles-mêmes, je m'interroge dans quelle mesure elles se font berner par les profiteurs et les financiers, les financeurs des armes nucléaires. Les budgets militaires explosent des centaines et des milliards et des milliards, alors que pour l'école, des fariboles. C'est pour ça qu'il y a des grèves. Et pour l'agriculture, c'est la quadrature d'un cercle qui tourne pas rond du tout en ce moment. Donc vous êtes sur Radio Libertaire et 89.4. Nous attendons vos appels pendant les pauses musicales au numéro 01 01 43 71 89 40, mais vous pouvez nous écrire à notre email unionpacifiste en un seul mot @riseup.org. .net, riseup.net. Vous devez absolument vous impliquer, vous intéresser. Parce que voir vu de loin, on est tous de bons conseils. Mais quand on a le nez dans le guidon, c'est une autre affaire. Il faut apprendre à dialoguer, apprendre à désarmer la peur de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Désarmer la peur de l'autre, ça va dans les deux sens. Avoir moins peur nous-mêmes, mais aussi réduire la peur que nous inspirons à l'autre. C'est tout l'enjeu de la dissuasion nucléaire dont nous parlerons tout à l'heure. Le dialogue peut transformer beaucoup de conflits, et surtout les conflits sanglants, les conflits militaires qui ravissent les profiteurs de guerre. Mais nous devons vaincre la peur de l'autre. Alors, je vous souhaite à tous encore une très heureuse année 2024. C'est la dernière semaine du mois de janvier. Et surtout à tous les insoumis et les insoumises. Vous savez que l'armée appelait insoumis les jeunes recrues qui refusaient de prendre le fusil. Et ça, c'est le sujet du SNU dont on parlera aussi tout à l'heure, qui est un sujet malheureusement d'actualité et contre lequel il faut également se mobiliser. Donc, une très bonne heureuse année d'amour et de fraternité et d'intelligence, de lucidité, pour construire une humanité augmentée en humanité. Avec la paix dans nos cœurs et dans nos esprits, disait Gandhi, nous serons mieux armés que n'importe quel modèle nucléaire modernisé de missiles. Le fétichisme de la force physique et matérielle, est cet atavisme primitif qui empêche les hommes actuels d'accéder à leur vraie force, leur vraie grandeur humaine, qui est d'ordre mental. La force mentale existe. On a des exemples, même si on les a tués, assassinés, évidemment. La force mentale intimide beaucoup la force brute, qui est archaïque, comme les dents de sagesse. La violence masculine ne se perpétue, par exemple, que grâce à la culture médiatique et éducative. La culture, elle s'étale dans toute sa splendeur, dans la publicité, sur les écrans, la pornographie. Et on appelle ça nos valeurs. Beaucoup d'autres pays nous reprochent ces valeurs-là. Et on se cache derrière son petit doigt. Le plus beau fruit d'une authentique culture, c'est la paix. Pas la paix des cimetières, pas la paix des assassinats, des drones mortels. Nous, actuellement, nous baignons dans la culture. Le cœur ou le cul? Le cœur et le cul. Voilà l'enjeu. L'avenir de la France et de toute l'humanité se joue là-dessus. La maîtrise de soi, le contrôle de nos émotions, ça libère le cerveau préfrontal, la réflexion, le recul, l'empathie et la lucidité. Il ne faut pas se suicider par lucidité. Il faut, grâce à la lucidité et à l'empathie, faire un pas vers l'autre. Et ainsi, nous le désarmerons. Il le se désarmera lui-même, sentant que nous sommes bien moins dangereux que nous prétendons que lui s'imagine. Mais évidemment, la dissuasion nucléaire, pour le moment, on ne sait pas quoi en faire. Elle est notre avenir anéanti, garanti. Dès que Pedro sera de retour, on vous fera écouter une chanson. Et je vais vous présenter notre invité qui s'appelle Fabien Locher, avec lequel nous serons en relation téléphonique dans un quart d'heure à peu près. Donc, il est chargé de recherche au CNRS dans l'équipe du GRHEN, de groupe de recherche en histoire environnemental, qui a été créé en 2008. Et c'est tout un groupe, donc, qui a la volonté d'intégrer la dimension cruciale de l'environnement à l'écriture de l'histoire. Donc, il est historien au premier chef, mais un historien écologiste et donc révolutionnaire au sens humaniste du terme. Histoire économique, histoire sociale, culturelle, politique, sciences et des techniques rurales et urbaines. Et ce soir, on va parler aussi de l'histoire militaire, parce que les militaires créent beaucoup de nuisances et intoxiquent l'environnement naturel et humain bien avant de passer à l'action violente en attaquant un autre pays. Comment font-ils ça? Eh bien, par leurs infrastructures, par le recours à l'uranium et toutes sortes d'autres matières premières pour leurs équipements, pour construire leurs bases, leurs établissements. Ça dévore, outre des milliards, ça dévore la substance de notre planète. le pas de pétrole, l'armée éteinte, les armées, évidemment, il ne s'agit pas que d'une armée, les armées de la planète consomment énormément de pétrole, de kérosène, des sous-marins nucléaires, tout ça, c'est extirpé et extrait du sol, du territoire, la terre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai recherché si étymologiquement il y a un lien entre la terre, le territoire national, historique, que Fabien Locher a étudié, et le terrorisme, terme créé pendant la Révolution française. Mais bien sûr, la terreur a existé bien avant, c'est un terme latin. Terroriser, la terreur, la peur. Est-ce qu'il y a un lien entre la peur et la terre? Peut-être tout à l'heure, je pourrais poser la question à Fabien Locher. Mais M. Locher est membre du bureau du conseil scientifique du CNRS, du conseil de laboratoire du centre de recherche historique, de la ruche, du conseil scientifique du projet ANR et membre du GDR interdisciplinaire des océans. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'un historien livresque comme le fut Hippolyte Taine ou d'anciens grands historiens du passé. Non, il s'intéresse donc d'une façon pluridisciplinaire à l'impact de nos réalités matérielles sur l'histoire moderne. Ces thèmes de recherche donc sont aussi la science du climat, l'atmosphère, la terre et les océans, les formes de gouvernement des ressources. Voilà les ressources. L'être humain est devenu une ressource, une chose, un objet, un matériau pour les États prédateurs. Il faudrait voir, il va nous expliquer tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme « État », parce que c'est relativement récent, la création des États. Si je veux dire juste quelques siècles, c'est rien face à l'histoire de l'humanité. Gouverner la nature, gouverner la population. Le néo-malthusianisme après 1945, la crise écologique, expertise et politique du développement et la crise sahélienne. Voyez, donc, le champ de recherche de Fabien Locher est très très vaste et je pense qu'il va nous apporter beaucoup de choses. J'ai lu son dernier ouvrage paru en 2022, donc c'est Posséder la nature, qu'il a co-écrit et co-dirigé avec M. Graber, Frédéric Graber et Fabien Locher sont les directeurs d'un ouvrage collectif passionnant, Posséder la nature, environnement et propriété dans l'histoire. Le terme propriété est un élément phare qui traverse tout son travail. Qu'est-ce que la propriété? Qu'est-ce qu'un propriétaire? S'approprier la terre. Est-ce que c'est du propre? On verra si c'est du propre ou du joli. Il a écrit aussi Les Révoltes du ciel qui sont parues un peu avant. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles quand je suis allée à Publico. Publico, la librairie anarchiste, où vous devez vous rendre, où trouver nos publications, tout ce qui est d'actualité concernant la lutte contre nos propres défauts collectifs. Publico, 145 rue Amelot. Veuillez noter le numéro de téléphone de Publico. 01 48 05 34 08. Une librairie très importante pour les citoyennes et citoyens conscients qu'ils peuvent agir et qu'il faut agir. Je répète son numéro, 01 48 05 34 08. Et l'adresse, c'est près de la République, 145 rue Amelot, métro Oberkampf, République ou Fillet du Calvaire. On vous y attend. Il y a plein d'activités culturelles et aussi éducatives, culturelles, des exposés, des conférences, des spectacles. toujours dédié au combat de l'humanité d'aller plus loin que les dents de sagesse, dont on n'a plus rien à faire dans la bouche, dans notre bouche, qui déstabilise tout, comme les armées, mais que notre patrimoine génétique a oublié d'effacer. Et donc, quand elles apparaissent, quand on est déjà adulte, elles déstabilisent les nouvelles dents, qui sont une dentition du néolithique, tandis que les dents de sagesse datent du paléolithique. C'est dingue! C'est vraiment dingue! Mais c'est une très belle métaphore pour moi, pour montrer aussi l'archaïsme des institutions militaires.
Atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. The first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. The first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base.
Celle qu'on n'a pas dénoncée suffit de nous envoyer en réponse à nos questions. Vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier à bas l'état policier. Dans les cafés, dans les gares, vos hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Ibrahim, les Moussa, au nom de ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État. Pour venir à bout de nous, les manifs terminés, vous frappez de nouveaux coups face aux vaqueurs, à leur nasse, à leur monde dégueulasse. Nous crions le poing levé dans les boîtes et les foyers. Abat l'État policier, abat l'État policier, abat l'État. Vous êtes reconnaissables pour les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, du Chiapas, de Bamako, de Berlin à Chicago.
Voilà, la France est en émoi, est presque en ébullition à cause de toutes ces déboires intérieurs, extérieurs que nous sommes en train de traverser. Mais elle n'est pas seule. En Amérique du Sud, en Allemagne aussi, les agriculteurs, pareil. Ils sont à Berlin. Ils bloquent tout. Et c'est la cata là-bas aussi. Pour les agriculteurs aussi. Vous êtes sur Radio Libertaire. Si vis pacem, si tu veux la paix, prépare la paix de l'Union pacifiste. Radio Libertaire 89.4. Merci de votre écoute. La guerre, ça nous coûte cher. Bruxelles veut la guerre. Des collusions sont fréquentes entre la sphère politique et l'industrie de l'armement, le complexe militaro-industriel, les lobbies des fabricants d'armes. Et puis, le greenwashing de tous ces magouilles. Ce n'est que de la peinture. Ce n'est pas vraiment vert. La guerre n'est jamais verte, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. À qui profite la guerre? Je viens de vous le dire. Le transfert d'armes le plus volumineux de 2017 à 2022, c'est incroyable. Des milliards et des milliards. Des milliards et des milliards. Vous êtes abreuvés actuellement. Je devrais dire heureusement, vous êtes au courant du transfert d'armes vers les pays en guerre. Alors, qu'est-ce qu'avait dit Coluche? Un État ne doit pas fournir. Non, on ne doit pas vendre des armes à des États qui sont en guerre. C'est ce que a réclamé M. Coluche. Parce que pourquoi? C'est écrit dans la constipation. Merci M. Coluche. Bien que figurant parmi les 10 plus gros pays vendeurs d'armes, le Royaume-Uni et la Corée du Sud n'apparaissent pas dans cette graphique que j'ai sous les yeux, qui se trouve dans Le Monde diplomatique de ce mois, car chacun de leurs échanges avec un autre pays est inférieur à 1000 TIV. Des tonnes, bien sûr, des tonnes et des tonnes de munitions militaires. La France, 10 400. La Russie, 22 800. L'Allemagne, 2 600. Les États-Unis, presque le triple de la Russie, 56 100. La Chine, c'est très modeste, 5 600. L'Italie, exactement presque la même chose que l'Allemagne, 2 500. Et Israël, 1 800. C'était entre 2017 et 2022. La guerre en Ukraine, grand accélérateur de l'armement mondial, s'y ajoute évidemment bien d'autres guerres, comme vous devinerez. Je vais vous lire un poème de notre cher Victor Hugo, parce que nous avons manifesté le week-end dernier et nous continuerons à manifester encore plusieurs fois pour l'abrogation de la loi immigration. Vous entendez sonner mon téléphone? Ça doit être Fabien. Allô Fabien? Bonjour Fabien, bonjour, merci de m'appeler. Je ne sais pas si les auditeurs vous entendent. Je vais mettre le haut-parleur, attendez. Allô, bonjour Fabien, bienvenue à Radio Libertaire.
Merci de m'avoir invité.
Voilà, je vais à chaque fois que vous prenez la parole, mettre mon téléphone au micro, mais le technicien me dit que ça ne marche pas. Donc je vous prie de patienter 30 secondes, je vais aller dans la cabine du technicien et là, ça ira mieux. Donc veuillez m'excuser, j'arrive.
Oh.
s'acquit pieusement, s'acquit
piteusement.
Ce qui récupère, vitupère, voici faire, s'acquit bleu, blanc, rouge, s'acquit
Marseillaise,
s'acquit République, s'acquit nos valeurs imprescriptibles, inaliénables et sacrées, s'acquit grandeur de la France, s'acquit
minute de silence,
s'acquit
surtout pas de slogan,
car le silence est d'or, aussi bien qu'il endort. S'acquit
défend la liberté
en restreignant celle de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. S'acquit
œuvre pour la paix
en préparant la guerre. S'acquit ferme les écoles, les hôpitaux, les écoles, les usines et aussi les théâtres pour acheter des armes
à l'ami d'assaut des rafales,
de beaux missiles Scalp,
tout nouveau, tout beau,
à 900 000 euros pièce. S'acquit
croit,
s'acquit
croit croire,
s'acquit croit croire, s'acquit
sonne les cloches
pour des athées notoires.
C'est pas grave,
récupérer les morts,
c'est pas défendu par les 10 commandements.
S'acquit
pour Armand Estilo,
mais qui ne s'en servent pas,
enfin pas tous les jours,
surtout pas contre le pouvoir. Ceux qui n'ont rien à dire,
ils font savoir.
Ceux qui ont laissé les autres écrire,
dessiner, rigoler,
seuls en ligne de mire.
Ceux qui brossent à reluire, ceux qui mettent ta pensée, ceux qui s'y musicalent.
Je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie.
Ceux qui forcent de l'ordre, ceux qui sécurisent, ceux qui snipers. Ceux qui
unité nationale,
ceux qui
unité mondiale,
ceux qui
unité planétaire.
N'ayons pas peur des mots qu'ils nous préparent.
Court,
vole
et nous venge.
Tout cela et beaucoup d'autres avançaient fièrement, invités par l'Élysée, les petits derrière,
les grands devant.
Vu de près, ils n'étaient pas si grands, surtout au troisième rang,
mais on les voyait de loin,
grandis par la grosse, l'énorme machine de l'État, toutes les bonnes grosses vieilles ficelles du pouvoir
qui tiennent à peu de choses au fond.
Une fois n'est pas coutume, ils faisaient craquer le bitume.
Ils battaient le pavé.
Les grands de ce monde,
ils se bousculaient,
se dépêchaient,
se crêpaient le chignon
pour être devant
sur la photo.
Car
il y avait un grand carré de tête
et chacun s'était fait celle qu'il voulait.
Il n'y avait pas de tête de Turc.
Celle-là, on les avait écartées.
Mais il y avait un Turc en tête.
Qui avait, lui, ses têtes de Kurde,
qu'il avait déjà fait rouler.
Qu'est-ce que vous voulez?
Il en faut pour tout le monde.
Quant à celle des journalistes, on n'en parle même pas. Ils s'extasient sur deux têtes. Ils n'en peuvent plus, les journalistes.
Pensez donc, une tête d'Israélien et une tête de Palestinien. On les voit côte à côte,
mais malgré tout bien séparés.
Sans se fâcher, quelle image pour les caméras du monde entier. Qu'importe si l'Israélien
n'aime pas les Arabes et qu'il le dit.
Qu'importe si le peuple du Palestinien
croupit dans une prison à ciel ouvert.
Tout de même, quelle image.
Hongrois, avoir vu aussi une tête de fasciste.
Nos deux voix passeront bien sur les ondes. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes très précieux. Avez-vous écouté l'émission avant?
Non, j'ai pas eu l'occasion.
Je vous ai présenté vos ouvrages, vos recherches, et j'espère que les auditeurs vont être très impatients de vous entendre. Vous avez donc publié en 2022 Posséder la nature, Et en tant qu'historien, vous vous attaquez à ce immense problème que constituent les nuisances, les intoxications de l'environnement. Est-ce que actuellement vous êtes toujours sur cette même recherche?
Oui, alors moi, pour vous dire, je suis historien de l'environnement. Donc, je travaille au CNRS, dans une institution qui s'appelle l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'ai travaillé, effectivement, sur plusieurs aspects de l'histoire de l'environnement, sur la question de la propriété et la question des communs. Ça, c'est le livre dont vous parlez, « Posséder la nature ». J'ai travaillé sur la question du climat. J'ai écrit un livre avec un collègue, Jean-Baptiste Fressoz, qui s'appelle « Les révoltes du ciel », qui est une histoire du changement climatique. Et puis, j'ai travaillé donc aussi sur la question des rapports entre environnement et agir militaire, disons, environnement et le rapport entre guerre et environnement, disons, au XXe siècle. Et voilà, donc c'est tous ces différents aspects que j'étudie, et je travaille, oui, toujours sur des questions environnementales.
C'est passionnant. Nous sommes en train de faire des réglages parce que je ne vous entends à peine, mais je trouve que votre travail, ce que j'ai lu l'introduction que vous avez écrite, donc pour posséder la nature, où vous soulignez en effet la question du territoire et de la terre, et vous montrez progressivement comment les communs ont abouti à l'accaparement de territoires de plus en plus importants par des associations, des collectifs et des groupes guerriers. Comment ça s'est enchaîné
de... Alors, à l'origine, les communs, pour vous dire ce que c'est d'abord les communs, ce sont des surfaces, des terrains possédés par les communautés. Donc, ça pouvait être des pâturages, des marécages, et aussi des forêts ou même des friches, des zones où on faisait paître le bétail. D'une part, et d'autre part, les communs, c'était aussi, disons, au XVIIe siècle, et encore au XIXe siècle, c'était aussi des droits que les communautés possédaient sur des propriétés privées. Par exemple, le droit d'aller cueillir des fruits sur les arbres fruitiers après la récolte, ou le droit de glanage qui consistait à pouvoir aller récolter des céréales tombées par terre après les récoltes. Donc, les communs, c'était à la fois des droits collectifs, ce que je viens de décrire, et aussi c'était des formes de propriété commune hein, de terrain. Et les communautés vivaient beaucoup avec ces communs, ça permettait aux plus pauvres dans les communautés de se nourrir, de subsister, par exemple en laissant ces animaux paître sur le commun. Et en fait, l'histoire du capitalisme, et c'est aussi Marx qui l'a souligné hein, dans plusieurs écrits, Marx explique que l'origine du capitalisme, hein, c'est l'enclosure des communs, donc l'appropriation des communs par... Alors, à la fois par des propriétaires privés, ça c'est la première chose, mais aussi par les États qui vont de plus en plus essayer de faire disparaître en fait cette forme de propriété qui n'est pas une propriété privée, qui est une propriété collective. Donc il y a des assauts dans toute l'Europe au XVIIIe, au XIXe siècle contre ce qu'on appelle ces communs. En France, ça va avoir une tournure assez particulière parce qu'en fait les communs vont être accaparés plutôt par les municipalités, ils vont devenir ce qu'on appelle aujourd'hui les terrains communaux. Donc au lieu d'être en fait appropriés et utilisés par les communautés, ça va devenir la propriété des mairies, ce qui est tout à fait différent, hein, puisque désormais ce ne sont plus les collectifs de citoyens ou d'habitants qui gèrent directement les communs, mais il y a cette espèce de grand filtre hein, qui est le pouvoir municipal hein, donc on passe des communs à ce qu'on appelle les terrains communaux finalement. Et alors le rapport à la question militaire, elle est indirecte, c'est via l'État hein, en fait, l'État qui prend de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure au XVIIIe ou XIXe siècle, notamment en s'accaparant les communs.
Justement, j'ai une question sur la relation entre ce processus de, d'accaparement des communs par les mairies, comme vous avez dit, et l'émergence des États. Est-ce que ce ne sont pas des intérêts de certains groupes qui ont bien sûr le pouvoir, et j'imagine qu'il y a la force militaire derrière, et qui exproprie, pour ainsi dire, les petits communs négligeables, de rien du tout. Et donc ça devient petit à petit des monstres froids. Vous savez bien qui a forgé cette image des monstres froids. Est-ce que les États, à votre avis, ils sont encore les amis de leurs petits communs, ou est-ce qu'ils sont leurs ennemis?
Alors déjà, il y a une chose qu'il faut souligner, les communaux dont je parlais, donc les il faut savoir que pendant longtemps, au 19e siècle, les maires n'étaient pas, en France en tout cas, ils n'étaient pas élus, hein, ils étaient nommés par l'État. Donc il n'y avait pas à l'époque d'antagonisme, au contraire, entre le pouvoir municipal et le pouvoir des États. Donc les municipalités étaient en large partie une émanation des États.
C'est alors, très intéressant.
Ouais. La question...
L'État, pardon.
Non. La question de l'accaparement, alors, elle prend plusieurs formes. Pour ce qui est de la question militaire, il y a à la fois le fait pour les États de s'accaparer les communs, donc de des ressources, des territoires, et donc de renforcer une puissance financière, hein, qui peut être convertie en puissance militaire, ça c'est la première chose. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'extension de la domanialité publique, c'est-à-dire le fait que les États exproprient effectivement, mais pour créer des terres, alors pour le coup, domaniales, c'est-à-dire possédées par l'État. Et dans le cadre de ce mouvement d'appropriation, il y a évidemment la question des camps militaires, des zones militaires, où là, on a l'exemple du Larzac, c'est bien sûr un exemple que sans doute vos auditeurs connaissent très bien. Un exemple où l'État et l'armée française a voulu exproprier pour étendre en fait la domanialité publique, c'est-à-dire l'étendue des terres appartenant à l'État, mais pour les affecter spécifiquement, hein, à l'extension d'un camp militaire. Ça a existé dans beaucoup d'endroits. On parle souvent du Larzac, mais il y a des zones de France où peut-être ça a été encore plus fort, c'est notamment dans l'Est, où il y a eu énormément de camps militaires qui ont été créés. Je pense à la région du grand camp militaire de Suippes, je pense à la Champagne, je pense à toutes ces régions où d'immenses territoires ont été en fait accaparés par les armées. Il y a eu aussi, la première vague d'accaparement de terres pour des raisons militaires, hein, en France. Et puis il y a eu la deuxième vague. La deuxième vague, c'est celle du Larzac. Hein, et il faut voir que ça a beaucoup... cette deuxième vague, elle a suivi la décolonisation. En fait, quand il y a eu la décolonisation dans l'Empire français, on a rapatrié toutes sortes de forces militaires et on les a, en fait, relocalisées dans des camps qu'on a construits dans le sud de la France, cette fois-ci. Donc, en Provence, mais aussi le camp du Larzac, ça a participé aussi de tout ça. Donc, il y a plusieurs vagues, hein, d'appropriation des terres par l'armée française. D'abord, c'est plutôt l'Est, plutôt le nord de la France, et puis, à partir des années fin 50, début 60, c'est plus la Provence, et puis le sud de la France en général. Voilà. Ça existe dans d'autres pays, hein. Il y a des exemples célèbres, par exemple le village de Sydenham en Angleterre, qui a été exproprié, dont on a vidé tous les habitants pour en faire une zone d'entraînement au combat urbain.
Ces expropriations, c'est un terme très, très joli pour dénommer une sorte de conquête. Je pense aux Indiens d'Amérique du Nord, qui sont ensuite parqués, non pas dans des camps, mais dans, vous le savez, dans des réserves. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre ces deux façons de faire, des États associés aux armées?
Alors, bon, le sort qui est réservé aux populations françaises, même au 19e siècle, est quand même moins violent que celui qui est réservé aux Indiens, aux Amérindiens, hein, dans le fil de la conquête. On n'a pas quand même de réserve, voyez, en France de population. Mais par contre, on déplace les populations pour réaliser. Alors, il y a des camps militaires, hein, ça c'est l'exemple que je donnais. Après, on peut aussi parler de des grandes infrastructures, hein, que l'État met en place. Là, il y a des exemples célèbres. Je ne sais pas vous connaissez Vinon-sur-Verdon. En tout cas, c'est une pour construire le barrage que EDF et l'État a construit dans cette région du Var. Hein, on a submergé un village. Ce village-là, il a été submergé pour... c'est les Salles-sur-Verdon, excusez-moi. Ce village des Salles-sur-Verdon a été submergé. On a évacué les habitants, on a dynamité d'ailleurs l'église, on a déplacé les morts, hein, le cimetière a été déplacé, et on a submergé, hein, les salles sur Verdon et reconstruit un village dans les années 50-60, un village sur les bords de ce nouveau lac, hein, qui a été construit pour faire de l'électricité. Donc vous voyez, ça existe, ces formes d'expropriation, ça existe dans le contexte militaire, mais là, c'est plutôt un contexte d'aménagement, de développement du territoire. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça va quand même de pair. L'État aménage pour développer sa puissance militaire, mais aussi, là, en l'occurrence, pour développer la production d'énergie, hydroélectrique en l'occurrence. Dans d'autres cas, c'est l'implantation d'usines très polluantes qui amène à l'expropriation des riverains pour assurer la sécurité et la pérennité d'installations, par exemple, chimiques ou pétrochimiques.
Quels sont ces sites particulièrement polluants pour lesquels l'État doit prendre des précautions pour protéger la population ?
Oui, alors, c'est un peu ambigu, hein, parce que exproprier les riverains, alors, c'est toujours ambigu. On exproprie les riverains pour les protéger, certes, d'un éventuel accident, mais c'est aussi une façon d'empêcher, hein, d'éventuelles actions en justice des riverains contre les installations. Parce que les riverains pourraient aller en justice en disant « bah moi, je suis exposé à telle ou telle pollution, dédommagez-moi », ou alors « fermez l'usine », vous voyez. Il pourrait y avoir des contestations, et il y en a depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle. Hein. Mes collègues historiens ont trouvé des procès très très nombreux, par exemple à Paris, au XVIIIe siècle, il y avait des usines de soude avec lesquelles on faisait du savon dans la ville, c'est des usines très polluantes. Eh bien, les Parisiens attaquaient, hein, les industriels en justice au XVIIIe siècle, hein, donc il y a plus de 200 ans, les attaquer en justice, et on a retrouvé, mes collègues ont retrouvé énormément de procès de cette époque. Donc il y a depuis longtemps des gens qui protestent, hein, contre le fait de vivre à côté d'usines polluantes, à côté d'industries chimiques. Donc les expulser, on peut dire que c'est les protéger, mais en même temps ça peut être aussi éloigner des gens qui seraient susceptibles de récriminer, hein, à l'idée d'habiter à côté d'une usine Céveso ou d'une usine chimique.
Alors, que pensez-vous de ce qui se passe à Bure depuis plusieurs années ?
Oui, alors ben là, c'est un autre type de mobilisation. Là, pour le Bure, je pense que vous faites référence à ce projet d'enfouissement des déchets très longue durée dits, déchets radioactifs. Donc effectivement, là, ça pose un problème qui est, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du nucléaire avec ces déchets à très longue durée dits, extrêmement nocifs ? Où est-ce qu'on les met ? Et là, il se pose la question, qui va assumer, hein, d'habiter à côté de ces déchets qui sont extrêmement nocifs. Bon, certes qu'on peut enfouir, mais avec, comme on le sait, hein, sur des durées de temps extrêmement longues, toujours des risques très importants. Ça pose la question quand même fondamentale, hein, c'est une question philosophique et morale. Hein, est-ce que l'homme a droit, hein, finalement, a droit moral, hein, pour produire de l'électricité, pour produire de l'énergie, de léguer à la planète des déchets aussi dangereux et dont la durée de vie est aussi longue. Donc ça met une charge extrême sur les générations futures, et ça met déjà en danger, malgré tout, dès aujourd'hui, hein, les habitants de régions comme la région de Bure. Ça, c'est aussi récurrent dans l'histoire de l'aménagement étatique, parce que, je veux dire, on pense à La Hague, par exemple. Clairement, de façon froide et déterminée, les autorités ont créé le centre de retraitement de déchets atomiques de La Hague dans la Manche, hein, parce que c'est une région peu peuplée, dont on a pensé qu'elle serait facilement isolable en cas d'accident. Voilà, donc il y a cette idée de zone sacrifiée, hein, on place des installations, notamment nucléaires, extrêmement dangereuses dans des endroits, enfin, dangereuses dans des endroits particuliers qu'on imagine facilement sacrifiables dans un certain sens, hein, au sens de l'État. Donc c'est un calcul cynique, froid, cynique d'aménagement.
Alors là, justement, je me pose une question que je vous pose aussi, à vous. Il y a dans le domaine du nucléaire et de la gestion des déchets, comme de leur production, un lien entre le privé et l'État. Puisque, par exemple, Areva a été à nouveau... comment on peut dire, étatisé partiellement, et partiellement c'est encore privé, et ce sont des milliards et des milliards qui sont en jeu, et en face il y a cette énorme dangerosité de ces déchets, qu'on ne maîtrise pas vraiment. Comment vous voyez ce problème, monsieur Locher? Alors, bon,
je ne suis pas spécialiste du nucléaire, mais moi, ce que je vois, il y a plusieurs choses dans l'équation nucléaire. Il y a la question d'abord d'un choix, que ça, les historiens du nucléaire l'ont bien montré. Le choix nucléaire civil en France, il est intimement lié au choix qu'a fait le pouvoir, alors, déjà de la 4ème République, et puis ensuite le pouvoir gaullien, de doter la France de l'arme nucléaire. Ça, il y a un lien indéfectible entre le choix du nucléaire militaire et le choix du nucléaire civil pour la production d'électricité. Alors, ça, c'est quelque chose que les historiens ont parfaitement montré. Dès le départ, il y a cette double volonté. Hein, et d'ailleurs, dans l'acte de constitution du commissariat à l'énergie atomique, il est déjà indiqué que le commissariat à l'énergie atomique s'intéressera aux applications à la fois civiles et militaires du nucléaire. Après, il y a la question des chocs pétroliers qui vont accélérer, à partir de 1974, accélérer l'entrée dans l'ère du nucléaire civil. Et donc, là, il y a une volonté d'indépendance qui est liée aussi à la décolonisation. C'est-à-dire que, à partir du moment où on perd les ressources pétrolières de l'Empire, eh bien, il faut opter, on a une incitation pour opter pour le nucléaire. Alors, entre parenthèses, on ne perd pas tout à fait les ressources pétrolières de l'Empire, puisque ces ressources continuent à être exploitées sous le régime, disons, de la France-Afrique. Hein, vous connaissez ça aussi, je pense très bien, via des sociétés comme Elf, etc. Bon, il y a ça. Il y a aussi une certaine culture dans la technocratie française. Je pense à l'influence du corps des mines, corps des polytechniciens ou fonctionnaires technocrates, disons, dont la culture professionnelle est profondément liée à la défense du nucléaire. Et puis, évidemment, il y a la question capitalistique. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, évidemment, des industries privées qui gagnent de l'argent en faisant la promotion du nucléaire, en exploitant du nucléaire. Et puis, il y a aussi une corollaire qui a été étudiée, notamment un film avait été fait sur ce sujet il y a quelques années. Il y a la question de la sous-traitance qui pose d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'aussi on essaie de faire du nucléaire civil aujourd'hui à moindre coût. Et on sous-traite à de petites entreprises l'entretien des centrales. Donc on expose aussi des travailleurs précaires à la vie en centrale nucléaire. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent autour du nucléaire, qui sont liés à sa dangerosité, qui sont liés aux intérêts, effectivement, à la fois militaires et capitalistes qui sont impliqués dans sa mise en œuvre. Et puis, bien sûr, il faut aussi penser, il y a la question des travailleurs du nucléaire qui sont aussi exposés, surtout quand ils sont simplement des employés d'agences d'intérim et qui font ça parce que c'est bien payé et qu'il leur faut vivre. Donc ces gens-là sont particulièrement exposés. C'est un vrai problème aussi de santé au travail, le nucléaire.
Et quel lien avec le réchauffement climatique sur lequel vous avez travaillé aussi, Fabien? Est-ce que les conflits militaires, ils exacerbent le réchauffement climatique, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que le réchauffement climatique exacerbe actuellement les conflits militaires, à votre avis?
Alors, il y a des travaux maintenant qui sont menés sur ce qu'on appelle les guerres du climat. Alors, il faut voir que c'est jamais complètement direct, c'est-à-dire que le changement climatique, en déstabilisant les sociétés, en produisant par exemple des grandes vagues de sécheresse, accentue des situations de conflit, de conflictualité qui sont déjà préexistantes. On n'a jamais eu l'exemple jusqu'à présent vraiment d'une guerre du climat au sens pur et dur. C'est un ingrédient, comme souvent dans les conflits, dans un ensemble de déclenchements de conflits. Mais c'est sûr que les variations climatiques, le changement climatique anthropique va clairement déstabiliser des régions du monde parce qu'il y aura, il y a déjà d'ailleurs, une augmentation de la fréquence des événements catastrophiques, parce qu'il y a une augmentation de la fréquence des catastrophes alimentaires, agricoles, et que tout ça, c'est des facteurs de déstabilisation. Et d'ailleurs, dans les institutions internationales, ça fait un certain nombre d'années qu'on réfléchit au lien entre, disons, géopolitique et changement climatique. Et puis, il y a la grande question des migrations, qui est très sensible. Évidemment, c'est aussi des déplacements de population, donc de la conflictualité possible. Voilà, donc ça, c'est une chose. Alors, par ailleurs, les armées sont de grandes productrices de CO2, l'armée américaine, on estime qu'elle produit à peu près, qu'elle consomme à peu près autant de pétrole qu'un pays aujourd'hui comme la Suède. Donc c'est énorme. Ce sont des contributeurs énormes au changement climatique. En plus, un des autres dommages sur l'environnement hein, que les armées peuvent produire. On pense aux essais nucléaires, bien sûr. Plus de 2000 essais nucléaires sur Terre depuis 1945. Donc voilà, on a une toute une panelle d'effets environnementaux des armées. Le changement climatique via l'émission de CO2 en fait partie. Alors c'est pas les seuls. Hein. Le changement climatique, il n'est pas seulement produit par les armées, mais les armées sont de contributeurs importants au changement climatique.
Alors, Fabien Locher, que souhaitez-vous dire à nos auditeurs pour cette nouvelle année 2024, pour qu'on aille dans le bon sens, qu'on tourne le dos?
Alors c'est difficile, hein, parce que l'année est quand même difficile. Ben, j'ai envie de leur dire, alors il y a plusieurs façons d'agir, je vais me concentrer sur la question du changement climatique. C'est jamais facile hein, de répondre, parce que il faut bien voir aussi qu'il y a des gens, par exemple, qui sont obligés de prendre leur voiture, parce que simplement le système est tel que pour aller travailler, ils sont obligés de prendre leur voiture. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des leviers sur les émissions de CO2. J'en donnerai simplement deux. La première, c'est la question de l'alimentation. Si vous regardez les émissions de CO2 par aliment, il y a une chose très facile pour produire beaucoup moins de CO2, c'est de ne plus manger de bœuf. Parce que même comparé à toutes les autres viandes, le bœuf est un énorme producteur de CO2, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est quelque chose dont on parle peu, mais je pense que c'est important, c'est simplement de s'interroger sur où est-ce qu'on met son argent dans une banque, parce que simplement, il y a des banques plus ou moins vertueuses du point de vue de l'émission de CO2, et une fois qu'on s'est posé la question, ça devient évident qu'on n'a pas envie de mettre, même si on n'a pas beaucoup d'argent, de confier son argent à des institutions bancaires qui investissent encore en 2024 dans le pétrole ou le charbon. Vous trouverez facilement la liste de ces banques qui refusent de se désengager des énergies fossiles. Bon, c'est des initiatives individuelles hein, dont je parle. Après, bien sûr, il reste la grande nécessité de se mobiliser politiquement et collectivement. Hein. Mais ça, je laisse à chacun le soin de déterminer hein, son engagement propre.
Bon, écoutez, voilà. Je suis un peu étonnée que vous ne... Oui, c'est bien que vous suggériez qu'on investisse nos sous dans une banque qui ne coopère pas avec le lobby militaire, qui ne finance pas les armes. Ça, c'est très bien, parce que vous êtes sûrement au courant, en ce moment, il y a un grand tiraillement au Parlement pour le livret A. Vous en avez entendu parler ? Le gouvernement veut... Oui. Je crois, c'est 500 milliards à peu près que constitue l'épargne populaire pour financer son effort de guerre.
Oui.
J'ai pas entendu parler. Ça, c'est vraiment un sujet gravissime aussi. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Encore une fois, ça participe de la même. Le mouvement, c'était. Après, j'indique simplement qu'il existe des banques sans actionnaires, des banques mutualistes, vous en trouverez facilement la liste, et qui ont des engagements éthiques et des engagements politiques, en fait, sur leur gestion. Effectivement, le livret A, au départ, n'était pas fait pour financer ce genre d'entreprise. Encore une fois, ça participe de. C'est un levier qui est simple, et je pense qu'on pourrait réfléchir à des formes d'action qui passent comme les gens du 19e siècle. Hein, les militants socialistes du 19e siècle organisaient des coopératives d'achat de nourriture, ils organisaient des banques, ils ont organisé des premières mutuelles. Les communs, aujourd'hui, ça peut être aussi réfléchir à des formes d'organisation, y compris financières, hein, parce que c'est comme le nerf de la guerre dans nos sociétés encore de marché, disons, à l'heure d'aujourd'hui, à soustraire finalement notre petit écho hein, à des logiques dans lesquelles on ne se reconnaît pas, tout simplement. Hein, voilà, c'est une façon d'agir qui est modeste, mais qui fait mal en fait, qui fait mal aux intérêts, en tout cas, si je me concentre sur les pétroliers, aux intérêts pétroliers, gaziers, aux intérêts du changement climatique, la question du livret A, c'est aussi. Je ne sais pas si c'est totalement acté, ce dont vous parlez quand même, c'est quand même en débat, je crois.
Députés et des collectifs avec de nombreuses associations qui veulent que le Sénat s'y oppose et que, qu'on fasse marche arrière. Et il y a de nombreuses, il y a plusieurs pétitions qu'on peut signer sur Internet, et le plus rapidement sera le mieux.
Ah, d'accord.
Et donc, on peut trouver facilement, hein, sur le livret A. Là, je suis dans la, dans le petit studio du technicien, mais j'ai préparé un document qui est dans la, l'autre pièce, dont je pourrais éventuellement, si on a le temps, lire quelques extraits contre cette loi, pour que le livret A soit au service du lobby militaire. En somme, l'épargne populaire atterrira dans les poches des profiteurs de guerre. Ne laissons pas faire. Signez les pétitions.
D'accord.
Flics militaires, ils sont exacerbés par le réchauffement climatique, mais ils exacerbent aussi toutes les calamités de l'environnement. Et l'être humain fait partie de l'environnement.
Bien sûr, bien sûr. Oui.
Monsieur Locher, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous permettre de faire cette mini-interview, et je m'excuse encore pour le souci technique du démarrage. Je vous souhaite une très bonne année et plein succès pour vos travaux et vos recherches, et je vais me procurer toutes vos nouveautés, et vos nouvelles publications qui sont à Publico, la librairie anarchiste. À bientôt, merci encore.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Pensante d'imbéciles aux têtes rasées qui tabassent du rhum en Hongrie
parce qu'ils leur trouvent une sale tête.
Et c'est pas la tête de notre premier ministre qui leur donnerait tort. Les Roms, ils font leur mauvaise tête.
Ils ne veulent pas s'intégrer.
Il en sait quelque chose, lui qui les expulse à tour de bras. Une seule fait sa mauvaise tête.
Parce qu'on ne l'a pas invitée.
Elle a beau faire partie de la famille, elle a vraiment une trop sale tête.
Une tête de peine de mort.
Alors elle n'est pas venue.
Mais elle est là quand même, dans toutes les têtes. Surtout celle de ceux qui se demandent comment ils vont bien pouvoir récupérer ses voix pour arriver en tête en 2017.
Ainsi frou, les petites marionnettes.
Mais qui tire les ficelles?
Le président s'est avancé.
Il a brisé le sommet de sa coquille avec son couteau pour avoir moins chaud.
Un tout petit peu moins chaud, toute cette chaleur humaine.
Il faut le comprendre, il n'est pas habitué.
Ça le dépasse un peu?
Enfin, pas trop, c'est quand même bien organisé.
Avec sa coquille d'œuf sur la tête et sa main sur le cœur, il fait penser à Napoléon.
Napoléon, mon
cul. Comme dirait Zazie.
Zazie dans le métro?
Sacré Zazie. Tiens, parlons-en du métro.
Il est gratuit pour aujourd'hui. Quand on veut l'unité nationale, on s'en donne les moyens, pas vrai?
Ou ça compte pas?
Ou pour du beurre?
Le beurre aussi a augmenté d'ailleurs.
Et le gaz, les loyers, l'électricité.
Et le train?
Mais ça compte pas!
C'est quand même un peu mesquin de parler de ça alors qu'on défile comme un seul homme.
Derrière ce carré de tête.
N'empêche, on n'a jamais vu ça à Paris. C'est émouvant de voir ces rames de métro bondées. Ça rappelle l'union sacrée. L'autre, la centenaire. Quand nos braves piou-piou sont partis, la fleur au fusil pour bouter l'ennemi héréditaire. Hors de...
Hors de quoi, tu chantes?
Oh, il est là, l'ennemi héréditaire.
Yeah.
Bras dessus, bras dessous avec le président.
Comme quoi la paix des nations, ça tient à peu de choses.
Du pognon.
Du pognon et du pognon.
Des intérêts réciproques bien compris.
Et hop,
on ne s'entrétripe plus.
On entrétripe les autres.
Ailleurs.
Loin des cris, loin du cœur.
C'est d'ailleurs un peu la fleur au fusil qu'ils aimeraient bien pouvoir envoyer.
Ou réenvoyer.
Ou réenvoyer en Irak.
Au Mali.
En Centrafrique.
En Libye.
Et enfin, enfin.
Oh, en Syrie.
L'expression de l'heure.
Civilisation distinguée.
L'assurance de l'heure.
sentiments évolués.
À coups d'invasion,
de bombardements,
d'occupations,
de bourbiers sanglants,
à tous ces barbares,
ces grands enfants
qui ne sont pas mûrs pour la démocratie,
sauf peut-être les têtes de dictateurs africains
qui caracolent en tête du carré de tête.
C'est pas leur faute à eux si c'est le bordel chez eux.
Ils ont essayé pourtant.
Ils leur ont expliqué.
Mais pas moyen.
Ils veulent pas, les Africains.
Ils n'arrêtent pas de se révolter contre toutes ces têtes de dictateurs
qu'on leur a aimablement imposées.
C'est lassant à la fin.
Alors voilà, on est obligé de laisser stationner nos soldats.
C'est pas qu'on y tienne particulièrement, notez bien.
C'est que, voyez-vous, les Africains,
ils ne sont pas assez entrés dans l'histoire.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Non, c'est l'autre.
Alors forcément, il faut leur expliquer.
Et qui est mieux placé pour faire rentrer la démocratie à coups de fusil dans leur tête de bois que nos gentils soldats, nos braves piou-piou.
À peine des soldats.
Des philanthropes.
Des humanitaires.
Ou juste un peu plus cher.
Et qui aime tellement les enfants.
Silence dans les rangs. Garde à vous.
Regardez vos télés. Le président est en train de parler.
Il dit des beaux mots, le président.
Liberté, égalité, fraternité.
Mais dans sa tête, on entend déjà les gros mots qu'il dira demain. Les sales mots. État d'urgence, sécurité, répression, intervention, guerre, guerre, guerre.
Dans son arsenal militaire,
son inventaire littéraire, il ne manque que le raton laveur.
Ah non, ça n'est pas un raton laveur.
C'est un pigeon. Il a lâché quelque chose sur le crâne d'œuf du président.
Ce n'est pas une bombe.
C'est une fiente.
Il s'appelle peut-être Charlie,
le pigeon.
En attendant, les mots comme les têtes défilent. État d'urgence, sécurité, répression, intervention, guerre.
Nous devons accepter d'être mieux surveillés pour être mieux protégés.
Nous devons accepter d'être mieux protégés pour être mieux surveillés.
La crise,
le chômage,
la misère.
Il faut dire que c'est pas très marrant.
Surtout pour ceux qui les vivent, bien sûr.
Mais aussi pour nos pauvres grosses têtes de dirigeants
qui se prennent la tête sur ce casse-tête. Solution.
Servons-nous de la colère légitime des bonnes gens face à la barbarie.
Face à la barbarie, à la folie, à l'intolérance, à la violence. Pensez donc, il donne des calaches aux enfants.
Il donne des enfants aux calaches.
Il transforme en bombe humaine une fillette de 10 ans.
Et surtout, surtout, ils ont des sales têtes. Oh, des sales têtes d'arabes, de noirs.
Bien sûr, ils ne le disent pas.
Enfin, pas tout à fait.
Mais dans la tête de ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup.
De ceux qui confondent la colère et la haine.
C'est comme ça que ça sonne.
Drelin, drelin, premier service.
Allons-nous farcir une petite mosquée, un petit musulman, comme ça, pour montrer qu'on est là, avec nos fronts bas.
Il y a aussi ceux qui, là-bas, pensent que ces gars-là marchent sur la tête, mais qui n'osent pas le dire, de peur de perdre une tête.
Ou une main.
Ou autre chose.
Mais en quoi leur balancer des bombes sur la tête les rendra moins fous?
Et comment la bombe va-t-elle s'y prendre pour reconnaître le fou au milieu de femmes, d'enfants, de vieillards, de fillettes?
Le soleil brille pour tout le monde. Il ne brille pas sur Paris ces jours-ci.
Pas pour ceux qui sont morts le crayon à la main.
Ceux qui sont morts parce qu'ils mangeaient cachère.
Ou parce qu'en terrasse, ils buvaient une bière.
Se promenaient quartier Voltaire.
Ou assistaient à un concert.
Mais ils ne brillent pas non plus sur ceux qu'on expose.
Qu'on explose.
Ceux qui se font bombarder régulièrement à Gaza.
Ceux qui souffrent et meurent parfois dans les geôles de Netanyahou.
Erdogan.
Ibrahim Boubacar Keïta.
Et autres amis de la démocratie. Ceux qui commencent à bien connaître les bienfaits de cette démocratie. En Rangers.
En Irak.
En Libye,
en Afghanistan,
ceux qui traversent la Méditerranée dans des bateaux pourris
et qu'on retrouve morts sur une plage en Italie,
ceux qui reviennent en France pour la deuxième,
la troisième
fois et qui reviennent encore parce que
le soleil ne brille pas en Afrique ni au Moyen-Orient.
Ils ne brillent pas pour ceux qui travaillent dans les mines d'uranium.
Les mines de coltan.
Les mines d'or.
Ceux qui font pleurer les arbres.
Ceux qui fabriquent les pneus avec lesquels d'autres rouleront.
Ceux qui s'habillent avec des vêtements que d'autres ont portés.
Ceux qui n'ont jamais vu le métro.
Ceux qui voient plus la mer tellement il y a de pétrole dessus.
Ceux qui ne vont plus à l'école.
Ceux qui écoutent les prédicateurs.
Ceux qui ne vont jamais chez le dentiste.
Le médecin.
La sage-femme. Parce qu'il n'y en a pas. Celles aussi qu'on voile, qu'on viole, qu'on excise. Celles qui enfantent dans la douleur. Des petits qui grandiront dans la souffrance, le désespoir et la colère. Ceux à qui on assène des vérités, derrière lesquelles ils entrevoient tant de mensonges. Alors, ils deviennent enragés.
L'envie d'une autre vie les ronge.
Et puis, on leur donne un fusil, alors pourquoi ne pas s'en servir?
Tout est dégoût.
Tout est abject.
La mort sourit.
Alors, ils tirent. Ils sont devenus forts.
Ils sont devenus fous de vrais méchants.
Et à leur tour, ils donnent un fusil à un autre. Et ainsi de suite.
Et ainsi de suite.
Et ainsi de suite.
Et ainsi de suite.
Jusqu'à quand?
Voilà. Le livret A. À l'Assemblée nationale, le lobby de l'armement veut faire passer sa proposition de loi le 14 mars prochain. Donc ne perdez pas de temps, si ce n'est déjà fait, signez la pétition en ligne intitulée « Livret A, non au financement de l'armement, oui au financement du logement social et de la transition écologique ». La pétition a recueilli plus de 25 000 signatures. Déjà, peut-être plus, parce que ce que je vous lis, ça date de la semaine dernière. Contre la volonté exprimée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le gouvernement a accepté cette loi cavalière, budgétaire, en recourant à quel article? Quel article? Je vous entends, 49.3. Mais qui a finalement été censuré par le Conseil constitutionnel. Bravo le Conseil constitutionnel. Puis, début janvier, une nouvelle proposition de loi semblable a été déposée au Sénat. Or, dans un sondage réalisé par l'Institut YouGov, les Françaises et les Français se montrent majoritairement hostiles à l'utilisation de leur épargne pour financer la défense nationale. 54% des personnes interrogées se disent défavorables à une telle mesure. Seuls 29% des sondés sont en faveur d'un fléchage de l'argent des livrets A et LDDS, livret du développement durable. Voilà. Signé. Les pétitions, s'il vous plaît, pour ne pas avoir honte d'avoir un livret A qui finit dans la poche des profiteurs de guerre. Mais en effet, notre Jupiter, il veut réarmer la nation. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous devons désarmer sa politique. Il s'agit de réarmer l'économie dominante, la grandeur industrielle, l'autorité de l'État. Jupiter se vante d'avoir doublé le budget de l'armée grâce à des lois historiques faisant tourner en quasi-surchauffe le complexe militaro-industriel. Fierté de la nation. Fierté de qui? C'est aussi réarmer son industrie nucléaire, pourvoyeuse de plutonium, et ses flamboyants EPR, son agriculture chimiquement dopée. Fabien Locher serait complètement d'accord. Ses champions du bétonnage et du bitumage, sa Startup Nation à la pointe de la surveillance de masse. Désarmant les dominants, désarmant toutes les armées et libérons les neutrones. Pas les neutrones, les neurones de nos cerveaux préfrontaux. Pour pouvoir mieux réfléchir avec du recul, avec de l'empathie et de la lucidité. Au lieu de réarmer la chaudière à dividendes, On désarmait les oukases présidentielles et tout ce qui soutient, tout ce qui, soutenu par sa politique délétère et la contribution involontaire de nous, les contribuables, pollue l'environnement et pollue les humains, asservit les travailleurs, privatise les communs. Les communs aussi ont été évoqués par Fabien Locher dans son ouvrage aussi de possession de la terre et de la nature. Est-ce qu'il faut être possédé par je ne sais quel démon pour vouloir s'approprier toute la planète au détriment de la quasi-totalité de sa population ? Vampirise les services publics. Désarmer la politique de domination des puissants est devenue vitale. Les soulèvements de la terre ont fait du désarmement des entités privées, s'appropriant les terres nourricières et naturelles, ainsi que l'eau au moyen de défense légitime de la communauté des femmes et des hommes habitant les territoires et désirant y vivre et en vivre, en préservant les ressources, les paysages, les communs et finalement la cause communautaire, plutôt que les intérêts particuliers, les dynasties travesties en je ne sais quel lobby, tout en haut de la hiérarchie sociale. Désarmer, c'est ridiculiser les logorées des bateleurs, des rois de l'escamotage. Désarmer, c'est pratiquer aussi le boycott à grande échelle des multinationales monopolistiques, des transnationales du commerce en ligne, des trusts, des agro-industries qui empoisonnent les corps et les champs, de la grande distribution qui asphyxie les PME, les artisans et les paysans dont les tracteurs sont sur le pied de guerre en France, à Berlin, en Belgique et qui sait ailleurs peut-être aussi. Nous ne nous rendons pas sourds et aveugles aux flux fétides des réseaux sociaux, au brouillard toxique du mensonge et des manipulations de masse qui sont les campagnes publicitaires. Que sont les campagnes publicitaires électorales dont nous sommes abreuvés du matin au soir sur la radio, à la télé sans doute aussi? C'est ignorer les médias sur papier glacé. Ignorons les médias sur papier glacé des patrons multimillionnaires, conseillers premium du pouvoir politique. Désarmer, c'est pratiquer la désobéissance civile, créer encore plus de zones à défendre les communs. Bloquer les bétonneurs et les bitumeurs partout où ils sévissent, c'est déchirer le voile de secret qui entoure les grandes industries les plus nocives, à savoir les énergies fossiles, le nucléaire, le tabac, la chimie et les pesticides, et j'en passe. Mettre en pièces leur galimatia pseudo-scientifique, pseudo-écologique, c'est lancer des contre-campagnes populaires contre un capitalisme prédateurs qui se repaient de l'inflation et de nos livrets A et de développement durable sur notre dos, coupable de notre embastiment dans un univers de consommation addictive. Finalement, désarmer, c'est aussi décoloniser notre imaginaire, comme le suggère judicieusement l'économiste de la décroissance Serge Latouche, dans son ouvrage « Décoloniser l'imaginaire » 2003, qui prône d'entamer un sevrage à notre toxicodépendance à la consommation. Comme tout drogué, nous préférons continuer à nous approvisionner, accumuler toujours plus, plutôt que d'entamer le sevrage qui nous rendra plus heureux finalement, parce que nous serons maîtres de nous-mêmes. Nous savons tous que nous allons dans le mur. Mais nous préférons ne pas y croire, car cela exige une rupture radicale et peut-être pas toujours très agréable. Cela va sans dire. Un changement de civilisation. Voilà. On ne veut plus de cette culture. Décoloniser notre imaginaire, c'est donc retrouver une liberté de penser. Justement, nous devons libérer nos neurones de nous engager pour être libres d'inventer d'autres mondes qu'une start-up nation ou une nation encasernée avec le SNU qui nous pend au nez. Sur la naïveté de la jeunesse, l'armée fait du business. Ne vous laissez pas faire. Désarmons les exploiteurs et le capitalisme désinhibé. C'est retrouver aussi une bienheureuse sobriété qui laisse la place à un bonheur de vivre ensemble et en harmonie avec le monde vivant. Ce ne sera pas facile. Mais le bonheur n'a pas de prix. Le bonheur n'a pas de prix. Je remercie pour ce texte qui est paru dans son blog le 17 janvier sur Mediapart. Yves Guiraud, paysan et journaliste en retraite active. Merci beaucoup Yves de m'avoir permis de lire quelques extraits de votre texte. Eh bien, nous touchons bientôt à la fin de notre émission, encore trop courte, il y avait plein de choses à vous dire. Je vais juste vous lire donc un tout petit poème de Victor Hugo, qui est aussi très attaché à la terre. Étranger, étranger, que signifie ce mot ? Quoi ? Sur ce rocher, j'ai moins de droits que dans ce champ. Quoi ? À Lampedusa, j'ai passé ce fleuve, ce sentier, cette barrière, cette ligne bleue ou rouge, visible seulement sur vos cartes. Et les arbres, les fleurs, le soleil ne me connaissent plus. Quelle ineptie ! De prétendre que je suis moins homme sur un point de terre que sur l'autre. Vous me dites, nous sommes chez nous, et vous n'êtes pas chez vous. Où ? Ici ? Vous n'avez qu'à creuser une fosse, et vous verrez que la terre m'y recevra, tout aussi bien que vous. Merci, cher Victor. Victor. Extrait de la légende des siècles, Tas de pierres. Et j'ajoute Romain Rolland pour conclure, même sans espoir, la lutte est encore un espoir. La fatalité, c'est l'excuse des âmes sans volonté. La vie est ce que nous la rêvons, parce que le rêve est une racine des réalités plus élevées de l'humanité. Rappelez-vous, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est la fin de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste France. Pedro et moi vous remercions de votre écoute et on vous demande encore de nous excuser les petits couacs techniques qu'on a eus avec notre invité, mais j'espère que ça vous a enrichi. À bientôt et bonne année combative.
À l'âge de 12 ans, il faut qualifier d'enfant délinquant, petit meurtrier, et à 14 ans, de psychopathe grave et d'adolescent irrécupérable. T'es alcoolique, encore au dressement et les coups de trique. Et à 18 ans, tu as fait l'armée chez les délinquants. Tu as déserté. La, 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 la.
êtes venus violents, t'as pris les devants. Il y a eu du sang, ils t'ont envoyé au pénitencier. Au lieu d'écouter, au lieu de t'aider, quand tu sortiras, il n'y aura rien pour toi. Tu recommenceras, car t'es la loi. Pour les enrager, et quelle société, pour les têtes cassées, et quelle société, pour les têtes coulées, pour les agiter, pour les pénibler, et quelle société, pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détraquer. Entre quatre murs, et quelle société pour les enrager, et quelle société pour les têtes cassées, et quelle société pour les têtes brûlées, pour les agiter, pour les pénicler, et quelle société pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détraquer.